nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De l'augmentation de la foi dans nos âmes. Mes chers amis, pour vous parler de ce thème que nous suggère l'intention de Benoît XVI en ouvrant la lettre de la foi, une citation a spontanément paru s'imposer à mes yeux, ce mot que j'avais dans la tête, le voici, Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi. Seulement, c'est là qu'il ne faut pas trop se fier à son intuition, ou plutôt qu'il faut la vérifier avec rigueur. Seulement, bon, en cherchant la référence exacte, je suis tombé d'abord sur cette phrase du père d'un enfant possédé par le démon, et que Jésus l'a délivré par un miracle. Dans l'évangile de saint Marc, au chapitre 9, verset 24. Seulement venir en aide à la foi en supprimant ce qui l'empêche, c'est une intervention divine qui est ici demandée, mais qui est périphérique et qui ne porte donc pas directement sur la foi elle-même. Alors j'étais tout penaud de ne pas trouver dans l'écriture confirmation de cette parole qui me revenait dans l'esprit. Et là, le secours précieux d'un de mes maîtres du séminaire me permit de trouver cet autre passage de l'évangile, cette foi en saint verset 5, qui entraînera une très belle réponse de Jésus. Si vous aviez la foi comme un grain de s'élever, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi et va te planter dans la mer. Jésus, par cette phrase, répondait à la requête si humble et si lucide de ses plus proches disciples. Augmentez en nous la foi. Adage et nobis fidèle. Or, dans le commentaire autorisé qu'on donne la proclameur, cette expression est directement rattachée à celle que nous citions tout à l'heure, à propos du démoniaque que Jésus a délivré. D'où il ressort que notre intuition n'était pas si mauvaise, et que nous pouvons dire comme ces différents interlocuteurs du maître, pardon, Seigneur, je crois, mais augmentez en moi la foi, venez en aide à mon incrédulité. Nous allons par un nécessaire recours à la doctrine classique tenter d'entrer plus avant dans le sens de cette formule. Quelle attention nous anime au commencement de cette réflexion? Simplement le constat suivant. Nous avons, par la grâce du baptême, reçu la foi au berceau. Notre Seigneur, devant ses apôtres, comparait la foi au grain de s'élever. Or, la propriété de cette plante est son incroyable développement. Elle croît et grandit au point de devenir comme un arbre capable d'accueillir sur ses branches les oiseaux du ciel. De même, la foi reçue par nous au baptême l'a été non pas dans ses ultimes déploiements, mais comme une toute petite graine, comme un germe, riche bien sûr de nombreuses virtualités, mais qui reste pour l'heure encore bien petit. La foi reçue au départ de la vie surnaturelle exige un accroissement ultérieur. Quel en sera le principe? Comment cela se fera-t-il? Voilà ce que nous allons tenter d'appréhender plus exactement. Nous le ferons en trois temps. Ce sera d'abord un rapide regard sur les citations de l'Écriture qui suggèrent notre propos, d'où se dégagera la structure même de l'acte de foi. Ce seront dans un deuxième temps les différentes modalités selon lesquelles la foi peut et doit croître en regard de la manière selon laquelle la foi existe en nous. Ce seront enfin les raisons d'être vigilants à ce que la foi ne cesse effectivement de se développer en notre âme. Premièrement, analysons ces simples mots. Adage nobis fidèle. Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi. On commence par se tourner vers le Seigneur. Pourquoi cela? Car nous savons bien que nous ne pouvons ajouter une seule coudée à notre taille. Dans l'ordre surnaturel, tout spécialement, se vérifie la parole du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi le chrétien doit nécessairement se tourner vers celui et celui seul qui peut réaliser cet accroissement. Et celui-là, c'est Dieu. Pourquoi le petit? Parce qu'il en est le premier auteur. Qui, mes frères, je vous le demande, qui a mis en mon âme la foi? Qui m'a fait un tel don, sinon le bon Dieu lui-même? Aussi, si ce don doit croître, ce sera par la grâce de Dieu. Par une nouvelle intervention divine, ce sera parce que le bon Dieu le veut. Et voilà pourquoi les apôtres, comme le père du jeune possédé, se tournent vers celui qu'ils reconnaissent comme le principe de la foi. Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi. Toutefois, pour que notre vue soit complète, il faut considérer le sujet de cette foi, c'est-à-dire très concrètement, cela en quoi elle se trouve, cela même qu'elle vient caractériser. La foi, disent les théologiens, se trouve, et il n'est nulle difficulté pour le comprendre, dans l'intelligence. Qu'est-ce que croire, en effet, c'est adhérer par l'intelligence à une vérité que Dieu me révèle. Et l'intelligence est une faculté de notre âme, de mon âme concrète, comme de la vôtre, mes frères. Aussi, la foi est en nous, principe d'acte que nous posons et que nous avons en conséquence des actes de foi. Celui qui croit, c'est l'homme, l'homme chrétien s'entend, l'homme qui vit de la foi. Ainsi, quand l'Évangile nous rapporte ces mots « je crois », nous pouvons les comprendre ainsi. Je suis en acte de croire. Un acte est posé, et le sujet de cet acte, c'est l'homme. Dieu me donne de croire, mais c'est moi qui crois. Et voilà pourquoi je peux dire sans mentir « ma foi ». Car si celle-ci est essentiellement de Dieu, elle est aussi entièrement de l'homme. Et puis nous avons ensuite ces mots « augmenter » ou encore « venez en aide à mon incrédulité ». Ils nous ramènent à la cause de la foi, à ce qui est la cause de son existence en nous, à la cause de sa croissance en nous. Nous l'avons dit, c'est Dieu lui-même qui nous communique cette vertu théologale comme un don en vue du royaume et qui l'augmente en nos âmes. De ces divers aspects qui commandent l'acte concret de foi, nous pouvons dégager la mise en place suivante. La foi, mes frères, vous vous en rendez compte, est une réalité complexe. Elle se résout en trois éléments principaux, ce que l'on appelle la puissance, l'acte et l'objet. Quel terme technique et donc barbare le concept des éléments, et nous allons tenter de mettre quelques mots plus simples sur ces concepts qui, pour être précis, peuvent paraître éloignés de notre vie concrète. En effet, par la foi, on peut désigner en même temps ce qui est cru, et donc l'objet auquel notre intelligence adhère. Premier point. On peut désigner l'acte lui-même d'adhésion, que l'on nomme l'acte de foi, on le voit. Deuxième point. On peut se référer enfin à la vertu elle-même, habituellement présente en nous, plus précisément dans notre intelligence, pour conduire celle-ci à poser des actes de foi. Troisième point. Et cette vertu, vertu qui vient de Dieu, et qui à travers la médiation des énoncés de foi nous fait adhérer à Dieu lui-même, cette vertu, on l'appelle aussi la foi. Voyez que le même mot, mes frères, renvoie à divers éléments pourtant indissociablement liés quand un acte de foi est posé. Reprenons, si vous le voulez bien, ces trois points. Il y a d'abord le sujet, c'est-à-dire vous et moi, l'homme concret, celui qui, en ce beau dimanche soir, vient écouter avec une attention admirable ces causeries interminables, ce qui n'est pas sans mérite. Cet homme donc croit, c'est-à-dire adhère à une vérité non évidente qu'on appelle la vérité de foi. Et l'homme y adhère par son intelligence. Mais remarquez que l'intelligence, en tant qu'elle est le sujet de la vérité de foi, ce en quoi la foi désire, doit encore, pour adhérer à la vérité surnaturelle, dont nous avons dit à l'instant qu'elle n'était pas évidente, recevoir cette impérium, c'est-à-dire cette intervention décisive de la volonté, qui elle-même est mue par la grâce de Dieu pour conduire l'intelligence à croire. Voyez comme c'est complexe. Et en même temps, on touche là du doigt le côté très humain de la foi, en tant qu'elle est un acte de l'homme, où ses facultés supérieures, ses puissances les plus nobles, à savoir l'intelligence et la volonté, sont pleinement engagées, mais toujours sous la dépendance de la grâce, c'est-à-dire de Dieu. Car il n'y a pas de progrès de la vérité théologale de foi, nous l'avons dit tout à l'heure, sans que Dieu le veuille. Avançons. Après le sujet, il y a ce vers quoi il se porte, c'est-à-dire ce qui est comme devant lui et qu'il doit rejoindre sous un certain aspect. Quel est, en d'autres termes, l'objet de la foi? Qu'est-ce que le catholique croit et à quoi adhère-t-il? Bien ici-bas, c'est vrai, d'une manière encore obscure et imparfaite, en raison de la nature même de la foi qui voit en même temps qu'elle révèle. Cet objet, mes frères, auquel par la foi nous adhérons, c'est tout simplement le bon Dieu lui-même. C'est Dieu en son mystère, et par conséquent, tout ce que le bon Dieu nous dit de lui, on appelle cela la révélation divine. Elle nous vient de Dieu même, par le Christ, comme saint Pierre en témoigne avec force dans cet épisode dramatique de l'Évangile auquel l'abbé Le Roux faisait allusion ce matin. C'est après le discours sur le pain de vie quand tant de disciples du Seigneur s'écartent et l'abandonnent, jugeant ses paroles trop dures à entendre. Jésus se tourne vers les apôtres. « Allez-vous, vous aussi m'abandonner ?» Et saint Pierre peut répondre tout de go en leur nom comme conscient, « Seigneur, à qui irions-nous ? C'est vous qui avez les paroles de la vie éternelle. » Splendide profession de foi, bien sûr, où la source de la vérité surnaturelle est désignée comme telle. C'est le Christ, le Verbe de Dieu, sa parole incarnée. Voyez les traits où nous en sommes. Nous avons le point de départ, l'intelligence du fidèle. Nous avons le point d'arrivée, l'énoncé de la foi. Comment les deux se rejoignent-ils? Cela se fait dans ce qu'on appelle l'acte de foi. Là, le sujet rejoint son objet. Et l'intelligence, en acte de foi, reçoit cette vérité de foi transmise jusqu'à nous par la révélation. On assiste alors à une adhésion ferme, solide, parce qu'elle a pour principe Dieu lui-même. Dieu, nous savons, nous le répétons souvent dans l'acte de foi, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Dieu, agissant par sa grâce dans l'âme, en même temps qu'il est lui-même, au principe de l'énoncé de foi auquel l'intelligence adhère avec certitude. À travers l'énoncé de foi et par la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même que l'homme atteint par son intelligence. Mes chers frères, ainsi s'achève notre première partie où nous avons tenté une mise en place entre ces divers aspects constitutifs de l'acte de foi concret tel que nous le considérions ici. Nous pouvons en venir alors à la question centrale qui exigeait pour plus de clarté ces diverses précisions. Comment la foi peut-elle grandir? Comment la vertu théologale de foi peut-elle se développer dans l'âme? Voilà une question essentielle si l'on veut être fidèle à l'invitation du Saint-Père et nourrir effectivement notre foi. Un premier regard nous conduit à envisager l'acte de foi lui-même. On aurait pu croire, comme je l'ai cru un temps moi-même, que la vertu de foi se développe comme d'autres savoirs, d'autres capacités naturelles. Prenez un violoncelliste. C'est à force de jouer et de répéter toujours et encore les mêmes exercices que petit à petit, par la répétition de ces mêmes actes, sa compétence sera plus assurée. Mais ce n'est pas ainsi que grandit la foi. Sans foi, nous pourrions par notre seul effort la développer et ajouter une idée à notre table, et alors Jésus se serait trompé. Non, mes frères, la vertu théologale de foi, parce qu'elle a Dieu et Dieu seul pour principe, ne peut croire que par Dieu. Qui pouvons-nous alors? Nous pouvons obtenir de Dieu l'accroissement de ce don si précieux qu'est la foi, en la méritant. Car en posant en état de grâce un acte de foi vivre, un acte de foi surnaturel, cet acte sera le principe, en tant qu'il est surnaturel, d'une nouvelle grâce, et ainsi de suite, d'un don ultérieur de Dieu permettant un nouvel acte de foi. Aussi plus nous croyons, plus nous posons d'actes de foi surnaturel, plus nous méritons de Dieu cet accroissement de la foi dans notre âme. Peut-on en dire plus? Sans doute, si nous considérons à présent les diverses lignes qui, dans l'acte de foi, se rejoignent. Souvenez-vous, d'un côté le sujet, de l'autre l'objet. L'intelligence en foi et la vérité qui est crue. Alors, selon ces deux lignes, on peut admettre une double croissance de la vérité théologale de foi. En un premier sens, du côté de l'intelligence, celle-ci peut se laisser de plus en plus envahir, investir par cette lumière supérieure qu'est la foi, d'où il ressort un regard nouveau sur les choses, sur les êtres, sur le créé, qui sera saisi dans son rapport à Dieu. D'où une certaine connaturalité avec le mystère de Dieu lui-même. Une plus grande facilité à l'approcher. Notre regard surnaturel, à force de croire, gagnera en profondeur. Au terme de l'acte de foi, l'intelligence est donc comme agrandie, et l'on peut parler alors d'une croissance de la foi en intensité ou encore en profondeur. Dans un second sens maintenant, plaçons-nous du côté de l'objet de foi, c'est-à-dire des vérités révélées et crues en vertu de la foi. De ce côté donc, il y a une autre extension possible. C'est une croissance en étendue, en nombre, une démultiplication de la foi. C'est toujours Dieu qui en est le principal objet, foi peu et doit grandir pour chacun d'entre nous, conformément à nos capacités et aux états de vie qui sont les nôtres. Mais remarquons bien que ces déploiements de la foi dans les âmes, que ce soit en intensité, c'était notre premier point, ou en extension, le second, ne se font jamais que par et dans les actes concrets de foi par lesquels nous adhérons à Dieu. Alors seulement, le regard de notre intelligence s'ouvre plus profondément à la lumière de Dieu. Selon le mot très bon Rousseau, « In lumine tuo domine vidimus lumen » Dans votre lumière, Seigneur, nous verrons la lumière. Et les chemins par lesquels Dieu, dans son être et sa splendeur, est saisi, se démultiplient. Que dire encore, mes frères, pour vous inviter à entrer joyeusement dans ces perspectives de croissance et d'approfondissement? Simplement deux remarques qui constitueront notre troisième point. D'abord, en nous fondant sur la structure de l'âme et les deux principales facultés de l'homme, que sont l'intelligence et la volonté, nous pouvons dire ceci. Étant posé que l'intelligence précède, au point de départ, la volonté, car la volonté se porte toujours vers un bien connu, et donc connu par l'intelligence. Toutefois, on peut observer dans un deuxième temps une influence mutuelle de ces deux facultés l'une sur l'autre. En effet, il y a comme une circulation interne en nous entre intelligence et vouloir. La volonté se porte vers le bien que lui présente l'intelligence, mais à son tour, l'intelligence cherche à mieux connaître le bien aimé par la volonté. C'est une expérience commune que l'ami, c'est-à-dire celui qui aime, cherche à entrer davantage dans l'intimité de son ami, à partager ses secrets afin de le mieux connaître. Imaginez, mes chers frères, un fiancé qui est à la guerre sur le front et sont posées à ses côtés de nombreuses lettres qui ont ceci de commun. Elles proviennent toutes de la fiancée soi-disant chérie et pourtant n'ont pas été ouvertes. Quel drôle d'amour est-ce là? Est-ce donc un sentiment? C'est un amour factice, un amour de façade. Puisse donc notre foi être bien vivante et nous conduire à plus de charité, pour qu'à son tour, cette charité à l'endroit de Dieu, cet amour de Dieu, soit au principe d'un vrai progrès dans la foi. Une dernière raison encore retiendra mes frères notre attention. Elle s'appuie sur la finalité assignée par le bon Dieu à chacun d'entre nous. Si je vous le demande, vous sauriez me le dire. Pourquoi sommes-nous sur terre? Pour gagner notre ciel? Ou encore pour faire notre salut en même temps que pour glorifier Dieu. Bref, nous sommes tout tendus vers le royaume. Nous sommes faits pour le ciel, et le ciel, c'est voir Dieu. C'est la vision béatifique. Cela transparaît dans la pratique même de l'Église, demandant au catéchumène au jour de son baptême, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Bien, mais que vous proposez la foi? La vie éternelle. La foi, nous met dès le départ à niveau. Elle nous fait entrer dans l'ordre surnaturel. Elle nous communique le germe de la béatitude éternelle. Cette vie éternelle dont Jésus dira en Jean, chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Ainsi apparaît avec netteté le rôle fondamental de la foi, rôle impérieux aussi, en nous ordonnant effectivement à la gloire du paradis et à la vision de Dieu, la foi nous en donne une première possession. C'est tout le sens de ces paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Par les vertus théologales, Dieu déjà vit en nous, ou plutôt c'est nous qui vivons en Dieu et avec Dieu. La charité réalise cette union merveilleuse, mais la charité n'est jamais sans la foi. En ce sens, la foi vive nous procure la vie éternelle et nous donne des un avant-goût du royaume. Et encore, dans la citation empruntée à Saint Jean, la vie éternelle, ceux qui nous connaissent, on peut dire que la foi est ce qui, dès cette vie, nous fait connaître Dieu. D'une manière sans doute encore imparfaite, mais non pas définitive, car la foi, si elle ne peut diminuer, peut en revanche se perdre. Mais enfin, quand elle est belle, quand elle conduit l'intelligence jusqu'à Dieu, bien que de manière encore voilée, c'est bien Dieu qu'elle nous donne, et par elle, nous possédons déjà le royaume. Mes chers amis, au terme de ces réflexions, la première remarque qui me vient est une infinie gratitude envers le bon Dieu, de qui nous tenons la foi. Nous l'avons reçue, elle nous fut donnée sans aucun mérite de notre part. Quoi de plus précieux que la foi, qui fonde toute notre vie surnaturelle, qui oriente notre existence vers sa finalité véritable, celle que le bon Dieu nous assigne, le ciel, ou encore la vision. Dieu nous donne la foi, et c'est la foi qui nous donne le bon Dieu. Et pour conclure, nous empruntons au père Michel Lacourdette une dernière remarque. Dans un très beau commentaire du traité de la foi, il écrit cette chose toute simple. Avant de voir, il faut croire. On commence par croire avant de savoir. C'est l'expérience la plus commune, la plus élémentaire. Celle que font les enfants sur les bancs de l'école. C'est la confiance dans ce que dit le maître qui dispose l'esprit et permet d'aller plus loin. Alors seulement, on pourra établir la vérité de ce que l'on a cru dans un premier temps, et donc connaître, et donc savoir, et donc voir. Aussi, ce théologien nous dit qu'ici-bas, nous sommes en quelque sorte à l'école de Dieu. Et la foi est cette initiation à la vision de Dieu, à la vision bienheureuse et infiniment désirable que je vous souhaite, mes frères, à chacun d'entre vous. Mes chers amis, soyons de bons élèves à l'école du bon Dieu, et laissons-nous conduire de clarté en clarté par la foi jusqu'à la vision, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.